Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Le mouvement autonomiste jurassien veut revoir ses statuts. Le MAJ met de côté la réunification à court terme. Il entend se concentrer sur les relations entre jurassiens au-delà de la frontière cantonale. Frédéric Richneck portera les couleurs de l'UDC Jura pour l'élection au gouvernement. Les membres du parti ont préféré hier soir la candidature du chef du service de l'enseignement à celle de Romain Cher. En hockey sur glace, la Suisse s'est facilement qualifiée hier pour les demi-finales du championnat du monde. Les Helvètes ont battu l'Autriche 6-0. Ils seront opposés au Danemark demain en demi-finale. Météo, le temps devrait être assez ensoleillé cet après-midi, mais pas forcément sur les reliefs. Davantage de nuages sont attendus sur les franches montagnes. Il fera entre 10 et 16 degrés maximum. Le mouvement autonomiste jurassien se trouve à un tournant de son histoire. Le MAJ a décidé de revoir complètement ses statuts avec le transfert de Moutier dans le canton du Jura qui approche. Les changements qui ont été présentés ce matin devront être validés par l'Assemblée des délégués du 28 juin à Fontenay. L'objectif du comité vise à revoir la stratégie du MAJ. La modification des statuts est surtout une adaptation à la situation politique actuelle avec la prochaine arrivée de Moutier dans le Jura. Il s'agit d'une petite révolution pour le MAJ, selon son secrétaire général Pierre-André Comte.
Il nous faut véritablement changer de stratégie pour faire en sorte que l'idéal de l'unité jurassienne reste dans les esprits et dans les cœurs, bien que celui-ci ne peut plus être un objectif territorial immédiat.
Cette nouvelle stratégie, elle consiste en quoi ?
Elle consiste d'abord à encourager et à intensifier les relations interjurassiennes. Il y a un peuple qui occupe deux cantons différents et donc nous avons à nous soucier des intérêts fondamentaux de ce peuple dans les deux régions. Et dans le Jura méridional, on constate par exemple qu'un certain nombre de politiciens qui sont aujourd'hui encore nos adversaires, mais qui pourraient devenir nos alliés, je le souhaite en tout cas, dénoncer les dangers qui pèsent sur cette région très minoritaire au sein du canton de Berne. Je pense naturellement à la biennisation, ce qui a été dit plusieurs fois ces dernières semaines, et je pense qu'il nous appartient, notre responsabilité est là, de faire en sorte qu'ensemble, nous puissions défendre cette région, son identité culturelle, et qu'elle soit dynamique et vivante, au-dessus et par-dessus la frontière cantonale.
Une chose qui ne figurera pas forcément dans les statuts, c'est la situation de Belpraon. Comment on se positionne au niveau du MAJ par rapport à Belpraon ?
Tout le monde sait que la commune de Belpraon doit pouvoir un jour ou l'autre revoter sur son sort cantonal. Parce qu'elle l'a fait de manière injuste, en tout cas elle l'a fait de manière sans connaître du tout ce qui allait devenir d'elle après le départ de Moutier. Donc il faut corriger cela parce que juridiquement et politiquement ça ne tient pas. Je pense que la commune de Belpraon a le droit d'obtenir le soutien de tout le monde, y compris du nôtre, pour essayer de faire en sorte qu'un jour ou l'autre, elle puisse démocratiquement s'exprimer à nouveau.
Pierre-André Comte répondait à Loïc Georgi. Le MAJ entend également procéder à un changement à la présidence. Laurent Coste souhaite céder sa place. Le comité proposera la candidature du conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridé à ses délégués le 28 juin. L'UDC Jura a joué la carte modérée pour l'élection au gouvernement d'octobre prochain. Les membres du parti ont attribué hier soir en congrès le ticket unique à Frédéric Schneck. L'actuel chef du service de l'enseignement a devancé le député-maire de La Baroche, Romain Cher, par 43 voix contre 29 lors de la primaire organisée par le parti agrarien. Frédéric Schneck s'est présenté en manager à l'écoute et en connaisseur de l'administration cantonale dans laquelle il est chef de service depuis 9 ans. Le citoyen de Kourou a déjà lancé sa campagne en évoquant la restructuration de l'État à mener et la manière de gouverner Frédéric Schneck.
Pour moi, la priorité, c'est qu'on doit pouvoir mettre en place un gouvernement qui travaille vraiment ensemble, qui se montre collégial. Ça a manqué ces 5 dernières années. Et si on veut sortir le canton du Jura de cette situation difficile que nous connaissons, il faut vraiment réussir à mettre en place une équipe qui travaille ensemble, qui est prêt à faire des compromis et de trouver les meilleures solutions pour le canton. Je trouve que ce serait terrible d'arriver à la conclusion que, ben voilà, à un moment donné, il faut réduire de temps de DPT selon une règle de 3 en fonction du nombre de fonctionnaires par département. Je trouve que c'est totalement faux. Le gouvernement doit avoir cette vue d'ensemble et je trouve que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités pour vraiment faire des propositions pour réorganiser l'État, pour réduire l'appareil étatique, trop lourd par rapport à la population, mais il faut faire ça en bonne intelligence, il faut associer le personnel, parce que le personnel y connaît. Et si on prend le temps de discuter avec eux, je suis persuadé qu'on trouvera les bonnes solutions.
Interview à retrouver sur rfj.ch, de même que celle du candidat battu Romain Cher et du président de l'UDC Jura, Alain Colère. Du changement au conseil communal d'Al, Cyril Gigon quittera la table de l'exécutif à la fin du mois de juin. En fonction depuis 7 ans, l'élu justifie sa décision dans un communiqué par un manque d'adéquation entre ses idées et la gouvernance actuelle du conseil communal. La section d'Al du centre communiquera prochainement le nom de son successeur. Les BKV lancent officiellement la première phase pour le parc éolien sur la montagne de Tramelan. L'énergéticien bernois, qui a reçu le permis de construire pour Ciment en 2023, a annoncé ce matin le lancement de la communication auprès des citoyens de Tramelan et de Secours, ainsi que des entreprises mandatées. Les travaux préliminaires se dérouleront en août, alors que les oppositions sont encore en cours en lien avec la réalisation des infrastructures électriques, mais sans effet suspensif. Du côté des Genevais, dont les autorités communales se sont opposées en vain au projet éolien, le maire nous a confié qu'il avait appris cette première phase par la radio ce matin. La confrérie des Jardins va revenir avec un 10e spectacle à Delémont. Les Jardins des 12 000 seront à découvrir entre le 14 et le 30 août 2026 avec 8 représentations sur le site de la SAFED. Les grandes lignes ont été présentées hier soir lors de la séance d'information. Le spectacle sera mis en scène par le jurassien Stéphane Tiss avec des textes de l'auteur français Nicolas Turon. Le spectacle ne reviendra pas sur des faits historiques mais racontera une histoire imaginaire avant-goût avec le président de la confrérie des jardiniers, Olivier Éthique.
C'est une histoire qui se passe dans un futur un peu sombre, dans les années 80, mais les années 2080, en 2088 principalement. Les ressources manquent, il y a une grande instabilité politique. Notre fameuse démocratie directe a fait place à un empire helvétique qui décide de tout. Et dans ce cadre-là, chaque région doit se spécialiser dans une culture. Pour Delémont, ce sera les haricots. Mais il y a un grand défi qui s'annonce pour Delémont, c'est de maintenir sa population en dessous de 12 000, puisqu'en dessous de ce chiffre, le statut de ville va être perdu et Delémont deviendrait un village, ce qui va lui faire perdre de nombreux avantages et privilèges. Donc des recenseurs fédéraux viennent faire le calcul du nombre de la population et les Delémontais vont user de ruses, de supercheries, de charmes pour essayer de maintenir cette population à 12 000 habitants.
Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer derrière ?
Oui, je pense que c'est un message que les Delémontains sont solidaires, collaborent et sont unis pour justement relever les défis.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler, la confrérie des jardiniers propose un spectacle tous les 4 ans. Elle recherche quelques 200 personnes pour participer à sa cuvée 2026, que ce soit pour les textes, les musiques ou les chansons, ainsi que des bénévoles. Plus de détails en lien sur notre site rfj.ch. Une création originale pour amuser les familles à la danse sur la Doue. Valérie Fleury-Vutriche et Jacques Stempfli présentent Ali Moon le rêveur demain après-midi en marge de la manifestation de Les Montaines. Les deux conteurs seront assisté par Roberto Cortesi qui agrémentera l'histoire de musique. Pour alimenter leur texte, les deux conteurs jurassiens ont puisé dans le répertoire traditionnel et ont ensuite ajouté leur propre patte. Jacques Stempfli revient sur la genèse de cette création.
L'idée était de monter un conte qui raconte l'histoire d'un personnage, de montrer qu'un personnage qui est un petit peu cabossé par la vie, ben quand même il a des ressources. C'est le fil rouge, hein, Ali Moon le rêveur, c'est le personnage principal. Puis après, il va avoir plein d'aventures et on va imbriquer des histoires qui vont renforcer en fait le chemin qu'il est en train de parcourir. Et ça me paraissait vraiment aussi intéressant de montrer, ben oui, on peut être cabossé par la vie, on peut avoir un destin un petit peu faussé au départ, mais on a quand même ce pouvoir de résilience. C'est ce qu'il va découvrir en fait durant ses aventures. Quoi.
Valérie, entre l'idée de base, entre guillemets, ce qu'on veut raconter, et puis le projet final, qu'est-ce qui se passe finalement entre ces deux moments-là ?
Beaucoup de plaisir de création. On a un texte devant soi. C'est comme si on le mangeait, puis après, il faut le digérer, puis en prendre les nutriments, le squelette. Donc tout ce travail-là, moi, j'adore. J'adore vraiment me dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que ce passage-là peut vouloir dire, comment les familles vont le percevoir, et puis aussi comment faire pour qu'il se soit... les enfants puissent participer, que ça soit interactif et puis qu'il y ait de la vie, que ça soit dynamique.
Valérie Fleury-Vutriche et Jacques Stempfli étaient au micro de Michel Léoni. La danse sur la Doue démarre en fin de journée dans les rues de Delémont et continuera demain. Le conte Ali Moon, le rêveur, sera présenté demain à 14h et à 17h30 à la Maison Vika. Elisabeth Baumschneider sera de passage ce soir dans le Jura à l'invitation de l'Association jurassienne des journalistes. La conseillère fédérale participera à une conférence sur le thème « Politiciens et journalistes, quelle relation du Jura à la Berne fédérale, récit de terrain ?» Le rendez-vous est fixé à partir de 19h30 à Cinémont, à Delémont. L'entrée est gratuite. Une table ronde réunira des journalistes et des élus locaux. La modération sera assurée par le rédacteur en chef de RFJ, Cyprien Lovi. L'Office fédéral de la statistique l'a confirmé récemment. Les Suisses sont les Européens qui travaillent le plus par semaine, 42h30. La durée est certes en diminution depuis 10 ans, mais par un effet singulier, en raison de l'augmentation des absences pour raisons de santé. La fêtière syndicale Travail Suisse déplore cet état de fait. Elle dénonce la volonté d'encore flexibiliser le droit du travail alors qu'il faudrait lutter contre l'épuisement et le stress, en particulier s'il s'agit de combler le déficit de main-d'œuvre. La vice-présidente de Travail Suisse, Léonore Porchet.
On parle d'épuisement au travail, mais aussi on parle d'être trop épuisé pour s'occuper de soi, de sa famille, de se nourrir correctement, faire son ménage, ses courses, sa vie privée après le travail. Et donc, le travail a des conséquences très lourdes sur la vie privée de la population suisse. Et ça, c'est vraiment inacceptable que dans une société qui a pourtant un cadre légal qui prétend vouloir préserver la santé, eh bien que l'épuisement ait un impact aussi lourd sur la vie privée des gens. On doit vraiment maintenant mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour préserver les personnes qui sont aujourd'hui déjà en place dans ces branches qui souffrent particulièrement de manque de main-d'œuvre liée au stress, en améliorant notamment les temps de pause, la reconnaissance des risques psychosociaux. Il y a beaucoup d'exemples tirés déjà même de la loi du travail qui devraient être mieux mis en œuvre pour protéger les travailleurs et les travailleuses. Et
Léonore Porchet était au micro de Serge Humain.
RFJ, il est 12h27.
RFJ, sport.
Hockey sur glace, Delémont-Valais renonce à jouer en deuxième ligue la saison prochaine. Le club de la capitale en a informé officiellement les instances dirigeantes hier. Des difficultés pour constituer un effectif sont à l'origine de cette décision. En mars, le HCDV avait été relégué après avoir terminé avant-dernier du tour de relégation de première ligue. Le choix de jouer en troisième ou en quatrième ligue n'est pas encore tranché. Toujours en hockey sur glace, l'équipe de Suisse figurera bien dans le dernier carré du championnat du monde pour la deuxième année consécutive. Elle a battu l'Autriche 6-0 hier en quart à Herning et défiera le Danemark demain en demi-finale à Stockholm. Les Danois ont réalisé hier soir l'énorme exploit de sortir le Canada de Sidney Crosby. Quant aux Helvètes, ils ont livré une nouvelle démonstration en assumant pleinement leur costume de favori. Le sélectionneur Patrick Fischer se dit très satisfait de son équipe.
Oui, c'est clair, on était favorite et on voulait montrer notre jeu au début de la partie. Et on a fait ça, on a joué très dur, on a joué très rapide, on a fait beaucoup de pression et c'était le recept. Je suis content parce qu'on a joué pour 60 minutes the right way. Comme ça, c'est difficile contre nous. Si tout le monde est prêt pour jouer pour l'équipe défensivement, on sait, on a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence en attaque. Oui, une bonne journée.
Et l'attaque suisse a brillé hier et la défense s'est montrée encore une fois intraitable. 13 tirs concédés seulement en 60 minutes. La Suisse a ainsi décroché une quatrième victoire sans prendre de but depuis le début du tournoi. Pour le défenseur et capitaine Andrea Glauser, il s'agit d'un signal positif avant la dernière ligne droite.
Bah oui, je pense que c'est positif. Mais on a fait quand même 2-3 trucs, on peut faire mieux. Ben, comme j'ai déjà dit aussi, les pénalités. Mais ouais, maintenant on est content, on peut être content. Demain, on va prendre l'avion à Stockholm et puis on va déjà commencer à préparer pour le prochain match.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Christophe Morayon. La Suisse jouera sa demi-finale demain dès 18h20 contre le Danemark. L'autre demi-finale mettra aux prises la Suède et les États-Unis à 14h20. En athlétisme, Mujinga Kambuji met un terme à sa saison selon une annonce faite aujourd'hui par son équipe de management. Une bonne nouvelle explique toutefois cette décision. La Bernoise de bientôt 33 ans est enceinte. Elle prévoit de revenir à la compétition l'an prochain. En football, une internationale helvète était en visite hier à Delémont, à moins d'un mois et demi de l'Euro féminin en Suisse. Myriam Terchoun effectuait sa désormais traditionnelle visite à l'école de culture générale à Delémont, où elle a rencontré des élèves pour un moment d'échange. L'occasion d'évoquer l'Euro avec l'attaquante qui évolue à Dijon, en France. La Suisse devra affronter la Norvège, l'Islande et la Finlande en phase de groupe. Tirage a priori abordable. Jamais encore dans son histoire, la Suisse n'a franchi le premier tour d'un Euro féminin. Myriam Terchoun confie que l'attente est immense au sein du vestiaire suisse.
L'excitation, elle est incroyable. On a tellement hâte que ça commence. Mais il y a encore un petit chemin à faire. La Ligue des Nations encore. Après, on a 3 semaines de préparation. Ça va être super dur. Et aussi avec la pression, parce qu'on sait que c'est un cadre qui est un peu plus grand. Il y a certes quelque chose qui ne vont pas participer à l'Euro. Donc, c'est toujours un peu compliqué émotionnellement. Mais je pense, globalement, on a très hâte que ça commence.
Vous confiez aux jeunes vos sensations sur le match en Angleterre, notamment voir un stade plein, plus de 30 000 personnes. C'est peut-être ce qui vous attend aussi un petit peu à l'Euro. Pour ça, il y a vraiment une hâte.
Vraiment, parce que en plus de ça, on est chez nous et j'espère aussi que tous les stades vont être pleins. Je pense que ça va être incroyable. Je pense que ça va être des moments où on ne va jamais oublier.
Vous parliez de chanter l'hymne à la maison, dans un stade plein peut-être, pour l'Euro. C'est quelque chose qu'il faudra gérer comme paramètre aussi, mine de rien. Peut-être que la sélectionneuse Pia Sundhage vous en parle aussi.
Oui, je pense que c'est des moments où, importants. C'est normal d'avoir le stress, mais je pense que ça va être particulier parce qu'on est chez nous. Ça te donne peut-être un peu plus la pression, mais aussi le confort d'être chez toi et tu joues chez toi. Donc non, je ne m'inquiète pas du tout. Ça va être des moments un peu stressants, mais aussi avec beaucoup de joie.
Myriam Terchoun répondait à Jérémy Pignard. L'Euro féminin se tiendra en Suisse du 2 au 27 juillet. La sélection nationale jouera ses matchs de groupe à Bâle, à Berne et à Genève. Enfin, les coureurs à pied ont rendez-vous dimanche pour la bucolique et Narcisse Run à Danvent. Il s'agira de la 3e étape du trophée jurassien de course à pied avec un tracé de 8,8 km au menu des champs de fleurs de la Haute-Ajoie. L'Ultra Narcisse de 16 km qui va jusqu'à Roche-d'Or est également au programme. Départ des courses adultes à partir de 10 heures.